10. L'incarcération. La fontaine des âmes.
Chapitre 60. Les fines bottes d'Aster laissent derrière elles de petites flaques de neige fondue qui stagnent dans les irrégularités du parquet. Je dois rouler des yeux au moins aussi effarés que l'espinasse, sa vigne et l'ouchadière. Seul Nectaire ne semble pas étonné. Aster rejette sa large capuche noire en arrière, puis secoue les dernières étoiles glacées accrochées à ses longs cheveux blancs.
« Nom d'un hibou, » s'amuse-t-elle. « C'est pas un temps à mettre une sorcière dehors. Mon balai en a tous les poils gelés. »
Je détaille la réaction de chacun. Savine, assise sur le lit, écoute Aster d'un air distrait, concentré sur le pouls d'Amandine, de plus en plus régulier. Nectaire observe sa sœur avec fascination, émerveillée qu'elle soit encore capable de le surprendre après plus de 40 ans de vie commune. Le regard de la brigadière Louchadière, à l'inverse, traverse la fenêtre pour fixer le ciel. Peut-être y cherche-t-elle les traînées blanches laissées par un imbus de mille ? L'espinasse est le premier à réagir face à cette apparition inattendue.
« Vous êtes monté de baisse à pied jusqu'ici ?»
Aster dégrafe sa longue cape.
« Amandine a besoin de moi, et sans vouloir me vanter, lieutenant, ce sont pas quelques flocons qui vont m'arrêter. Je suis née ici, et je connais chaque sentier. La neige est comme les gens, elle finit toujours par s'accumuler aux mêmes endroits. Il suffit d'éviter les coins les plus fréquentés. »
L'espinasse ne paraît pas convaincue. Il évalue l'impressionnante couche de neige sur les toits des maisons de Froidefonds, plus de 30 cm, et semble calculer par combien il faut la multiplier pour évaluer l'épaisseur de poudreuse recouvrant les chemins. Par 3 ? Par 5 ? Aster en profite pour déboutonner la veste de fourrure noire qu'elle portait sous sa cape. Lapin, belette ou moufette ?
T'étais pas né, gamin, mais je peux te dire que l'hiver 85 a été autrement plus rude que ce petit hoquet de février. J'avais que 13 ans, et ça ne m'empêchait pas de monter chaque jour jusqu'au Mont d'Or pour ramener à ma mère de quoi remplir la marmite. Ça a duré 3 mois, pas 3 heures. Et pourtant, chaque matin, quand le maître faisait l'appel, il manquait pas un gosse devant l'école.
Aster a l'air sincère. Je veux bien croire que si Nectaire lui a envoyé un texto, elle soit assez givrée pour monter jusqu'à Froidefonds à pied. Pourtant, bizarrement, je n'arrive pas à lui faire confiance. Comme si elle ne nous avait pas dit toute la vérité. « Amandine va bien », assure l'espinasse. Les secours arrivent, elle se repose.
« Et Tom ?» réplique la sorcière. « Il va bien, lui aussi ?»
Sous sa veste poilue, bien au sec, Aster porte son unalome de cuivre et toute une série de petites fioles de verre rangées dans une cartouchière de cuir serrée contre sa poitrine.
« Écoute-moi bien. » « Lieutenant Lavinas, » poursuit-elle. « Je connais Amandine et Tom depuis qu'ils sont nés. J'ai bercé cette gamine sur mes genoux, comme j'ai bercé une 20aine d'années plus tard son gamin, et comme je l'ai fait avec la plupart des gamins du coin. Amandine était une gamine un peu plus réceptive que les autres à mes histoires, un peu moins pervertie par la télé, les légumes qu'on achète en sachet plastique et les médicaments qu'on fabrique avec des produits chimiques. » C'est une fille équilibrée, contrairement à ce que beaucoup pensent. Ça, c'est pour moi.
Aster plante son regard noir dans mes yeux, puis fixe le lit d'Amandine.
Donc, si vous permettez, moi aussi, je vais veiller sur elle.
Elle décroche sa cartouchière. Jennifer Louchadière la regarde sans réagir. L'espinasse se gratte la barbe et lâche un soupir, se demandant comment il va s'en sortir entre une médecin qui parle de réincarnation et une témoin qui propose de soigner la victime avec des filtres ensorcelés. Dès qu'Aster s'avance, le lieutenant frappe dans ses mains. Il a visiblement décidé de faire preuve d'autorité.
« Bien, maintenant on va se calmer. J'ai appelé les urgences il y a 20 minutes, elles devraient plus tarder. En attendant, tout le monde sort de cette chambre, y compris vous deux, les amoureux. »
Savine et Nectaire comprennent que le lieutenant parle d'eux. Le gendarme se tourne avec détermination vers Aster.
« Et vous aussi, la galipote, oust, du balai. Et avant de déguerpir, Vous ramassez vos éprouvettes. Jennifer, tu restes et tu surveilles Amandine Fontaine. Tu prends sa température, son pouls et tu viens me faire un rapport toutes les 5 minutes. Docteur Libéry, vous redescendez avec moi dans la salle. Peut-être que vos souvenirs sont revenus. Vous prenez une chaise ou vous retournez sur le canapé, comme vous voulez, mais on va tout recommencer depuis le début.
La tirade paraît avoir produit son effet. Même Aster ne bronche pas dans l'immédiat. L'espinasse a à peine le temps d'esquisser un sourire satisfait que... patatras. Le téléphone de Nectar vient de sonner. Le secrétaire de mairie maîtrise maintenant parfaitement la technique qui consiste à décrocher et en même temps activer le haut-parleur.
« Allô ?» interroge une voix que j'ai immédiatement reconnue. « Vous avez cherché à me contacter ?»« Docteur Wayan Balik Kuning, CHU du Havre. Que puis-je pour vous ?»
L'espinasse arrache le téléphone des mains de Nectar, s'éloigne de quelques pas, mais pas assez pour qu'on ne l'entende pas.
Lieutenant L'Espinasse, brigade de Besse, en charge de l'enquête sur le double meurtre de Martin Saint-Foin et Jonas Lemoine. Vous tombez bien, docteur, j'ai pas mal de questions à vous poser, mais avant cela, il va falloir que vous m'écoutiez.
Sans aucune pudeur, sans même fermer la porte ou s'isoler dans une autre pièce, le lieutenant expose la situation, d'une voix forte, insistant même sur ses intonations quasi militaires de gendarme qui va à l'essentiel.
En quoi puis-je vous aider ?
Parvient à glisser Wayan. Le gendarme ne lui répond pas et poursuit son récit, évoque une à une mes obsessions, mes théories sur la réincarnation. Je suis certaine qu'il hausse volontairement la voix pour que j'entende, pour que tout le monde entende. Derrière lui, Wayan l'écoute, ponctue la fin de chaque phrase par ses « hum hum » habituels. Je les ai si souvent entendus. Où se trouve Wayan ? J'ai essayé de le joindre plusieurs fois depuis hier soir, Nectar aussi apparemment. Wayan, à son tour, ce matin, a tenté de me rappeler. Est-il dans son cabinet, au Havre ? Pourquoi en douter ? Ou quelque part devant la mer, à Sainte-Adresse, Étretat ou Antifère ? Il adorait s'y promener. Non, j'entends en fond, derrière leur conversation, une chanson, comme si Wayan écoutait la radio. Est-il en voiture ? Ou chez l'une de ses maîtresses ? Je suis bien placée pour savoir qu'il les choisissait parmi ses patientes et les multipliait.
En résumé, docteur, termine enfin l'espinasse, je pense que vous comprendrez le sens de mon interrogation. Vous êtes le thérapeute de Maddy Libéry depuis plus de 10 ans, alors je formulerai ainsi ma question. Est-elle saine d'esprit ?
Je remercie Wayan de ne pas répondre immédiatement. Dans la sourdine du téléphone, une page de publicité a succédé à la chanson. Wayan tousse pour s'éclaircir la voix. Son timbre grave, posé, est empreint d'une belle solennité.
Puisque vous me demandez d'être précis, je vais être le plus clair possible, lieutenant. Maddy Libéry est parfaitement saine d'esprit.
Entre les bandes de sparadrap qui entourent mon cerveau, des milliers de bulles de soulagement explosent. Merci, Wayan.
Elle a subi un deuil douloureux, explique mon psy préféré. Je l'ai accompagnée pendant des années et je peux vous affirmer que ma patiente ne souffre d'aucune forme de schizophrénie, de paranoïa ou de bipolarité.
Merci, Wayan.
Si son comportement a pu vous sembler étrange, c'est uniquement le fait des événements qui se sont produits. Et sans vouloir vous manquer de respect, lieutenant, c'est à vous qu'il revient de les élucider, aussi incroyables ou inexplicables qu'ils puissent être. Mais bouclez votre enquête en mettant toutes vos zones d'ombre et incohérences sur le compte de la folie de ma patiente serait de votre part non seulement une grave faute professionnelle, mais aurait surtout pour conséquence de laisser en liberté le véritable criminel.
Merci, Waya.
L'espinasse encaisse le diagnostic comme on se prend pleine face indirect du droit.
Wayan a été suffisamment clair pour que son avis médical ne se discute pas. Je regrette qu'il soit si loin, en Normandie. Je m'en veux maintenant de ne pas l'avoir rappelé avant, de ne pas avoir répondu à ses propositions généreuses. Ici, personne ne me retient. Un seul mot de vous et je viens. De l'avoir, au fond, toujours traité avec mépris, comme un amoureux transi, un peu trop collant. Wayan est un type bien, un grand professionnel, et même le temps d'un soir, d'un seul soir d'égarement, s'est révélé un excellent amant. Un long silence s'installe entre le psychiatre et le lieutenant, muets, chacun de leur côté. Seule la radio derrière Wayan grésille encore. Un jingle tonitruant ponctue la fin de la page de publicité.
On fait la route ensemble, annonce une voix féminine. Soyez prudents, les conditions de circulation sont épouvantables sur toute la région. France Bleu, pays d'Auvergne, restez à l'écoute.